titre. Le nom Esdras veut dire aide ou secours. Et j'aimerais que je puisse être une aide pour vous, et puis aussi qu'on puisse s'entraider, parce qu'on est tous des serviteurs de Dieu. Ça veut dire tous les croyants sont des serviteurs de Dieu. Ils peuvent être une aide, un secours. Et nous avons exprimé dans notre cantique, c'est notre désir de vivre pour lui. Mais entre-temps, il forme nos cœurs. Et nous avons besoin d'être soutenus par lui, d'être gardés par lui. On a beaucoup de leçons pour nous dans le livre d'Esdras. Et vous avez reçu un aperçu, je pense. Ça? Parce que le premier soir, c'est l'introduction et c'est le plus dur. Donc j'espère que vous ayez la patience, parce que plus tard, ça va être plus facile. Si j'ai une fois expliqué les principes de base, là, sur cette feuille-là, vous pouvez encore reviser ça chez vous, puis on peut utiliser ces principes pour l'étude de ce livre. Esdras 1. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, à Jérusalem. Et celui qui est de reste, dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide, avec de l'argent, et avec de l'or, avec des biens, et avec du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors se levèrent les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient les aidèrent avec des objets d'argent, avec de l'or, avec des biens, avec du bétail, avec des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem, et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu, et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les compta à Shesbatsar, prince de Juda. Et en voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, et 1000 autres ustensiles. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shesbatsar apporta le tout, lorsqu'on fit monter de Babylone à Jérusalem, ceux de la transportation. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Une prochaine fois, on aimerait couvrir un peu plus, peut-être chapitre 2, 3, ensemble, pour aller un peu plus vite. Mais ce soir, j'ai lu seulement ce premier chapitre, parce qu'on aura besoin d'un peu de temps pour parler de quelques principes. Comme vous voyez sur la feuille, d'abord, c'est important pour nous comprendre que la Bible peut être lue dans des sens différents. Ça ne veut pas dire que ces sens se contredisent, mais ce sont des niveaux différents, pour ainsi dire. Le premier sens est très important, le sens littéral. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce texte. Ce sont des hommes de Dieu qui ont écrit aussi. Donc, dans un sens, la Bible, c'est 100% l'œuvre de l'homme. Mais en même temps, c'est 100% l'œuvre de Dieu. C'est déjà un mystère. Mais l'Esprit de Dieu se sert de certains mots, et chaque mot est important. On doit lire la Bible avec le doigt, vraiment. Chaque mot est important. Ce sont des mots que l'Esprit de Dieu a donnés à ces hommes de Dieu qui ont écrit. Et c'est pour ça qu'on respecte le sens littéral. On ne va pas paraphraser la Bible, on respecte le sens littéral. C'est très important à connaître le texte littéral. Ainsi, c'est bon aussi de mémoriser les versets de la Bible. Et c'est aussi important connaître le sens littéral parce que souvent dans la Bible, on voit que les autres sens qu'on va maintenant mentionner sont très importants. Et puis si le sens littéral change, ça va affecter aussi le sens spirituel et prophétique. Si on lit la Bible, on va voir que des histoires, des types, même des objets sont des illustrations pour des doctrines dans le Nouveau Testament. C'est très important donc à connaître le sens littéral d'abord. Et ensuite, dirigé par l'Esprit, par la parole de Dieu, on va voir ce que ça signifie aussi pour nous dans notre temps. Mais avant de parler de cet aspect-là, j'aimerais mentionner le sens prophétique. La Bible nous parle beaucoup du peuple d'Israël et aussi des plans que Dieu a pour ce monde. Et dans ce sens-là, j'utilise cette expression, le sens prophétique. Et même ce livre-là, d'Esdras, a un sens prophétique. Vous savez que le peuple d'Israël, maintenant en Israël, n'est pas encore l'accomplissement des prophéties de Dieu. Un jour, Dieu va intervenir pour que le Seigneur Jésus lui-même va régner. Il sera le grand Cyrus, le roi empereur, le grand empereur. Et c'est lui qui va ainsi bénir son peuple terrestre Israël. Dans ce sens-là, ce livre d'Esdras a aussi un sens prophétique. Mais on ne veut pas étudier ce sens-là, parce que notre exercice, c'est d'étudier plutôt le sens spirituel ou moral. Qu'est-ce que ces passages veulent nous dire? Et vous connaissez sans doute des versets comme Luc 24, où le Seigneur Jésus a pris les passages de l'Ancien Testament, de Moïse, des prophètes, des psaumes, des écrits. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué à ses deux disciples d'Emmaüs les choses qui le regardent, qui le concernent. Donc on trouve dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, dans les écrits comme Esdras, les choses qui le concernent. Et si ces choses concernent le Seigneur Jésus, ces choses nous concernent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire nous qui appartiennent au Seigneur Jésus. Et j'espère que tous ici peuvent dire qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus. Vrai? Si ce n'est pas vrai, il faut crier au Seigneur d'être sauvé. Donc, pour ceux qui sont sauvés, ces choses deviennent importantes. Pourquoi? Parce que ces choses nous parlent du Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus, de notre bien-aimé. Le Seigneur Jésus est le grand interprète dans Luc 24. Et ce sont les choses qui le concernent. Nous l'aimons et ainsi ces choses nous concernent maintenant aussi. Nous sommes liés à la personne du Seigneur Jésus. C'est pour ça que ces choses nous concernent maintenant. Et on peut voir ça dans 2 Timothée 3 par exemple. Toutes les Écritures ont été écrites, inspirées par l'Esprit de Dieu, ont été écrites pour notre instruction, pour nous corriger aussi, pour nous faire des progrès à l'école de Dieu. C'est pour ça que chaque page de la Bible est importante pour le chrétien. Et ainsi, on peut dire que le texte biblique a un sens spirituel. Parce que vous pourriez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? J'ai rien à faire avec ça. Mais vous voyez, on espère voir tantôt des principes qui sont trouvés là. Par exemple, la délivrance de la captivité. C'est quoi ça? On va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, il y a des choses qui nous concernent tout de suite. Ensuite, il y a aussi un sens allégorique. Ce n'est pas toujours le cas, mais je prends par exemple, j'ai mentionné l'exemple de Ruth, le livre de Ruth. On voit aussi des leçons qu'on peut appliquer à une phase dans l'histoire de l'Église. Je parle maintenant pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église et aussi les 7 églises dans Apocalypse 2 et 3 de Philadelphie. On voit que le livre de Ruth, c'est un peu une allégorie de Philadelphie. Ça arrive aussi dans d'autres écrits comme Galates 4 où Paul parle d'un sens allégorique. Donc je répète, ce n'est pas dans chaque livre de la Bible qu'on trouve des allégories, mais il y a des passages qui sont vraiment allégoriques. Et dans ce sens-là aussi, Esdras et Néhémie sont allégoriques. On peut dire que ça concerne l'histoire d'Israël, vraiment, c'est vrai, mais ça concerne aussi une partie spéciale de l'histoire de l'Église, qu'on va voir tantôt, qu'on appelle la Réformation et le Réveil. Donc, vous gardez ces quatre principes en mémoire, quatre sens, pour interpréter la Bible. Et on va surtout poursuivre le sens spirituel moral, les applications spirituelles pour nous. Le deuxième point que j'ai marqué, c'est les quatre exils d'Israël. On ne peut pas parler de cela en détail maintenant, mais vous connaissez probablement un peu l'histoire d'Israël. Israël en Égypte, c'était une captivité, c'était un exil. Exil veut dire être banni de ton pays, être loin de ton pays. Ainsi, ils étaient loin du pays de la promesse en Égypte, dans l'esclavage, opprimés par Pharaon. Puis là, Dieu a donné un libérateur, Moïse. Le deuxième exil est dans les jours de Samuel. C'est plus difficile à comprendre. Là, l'arche de Dieu était en exil. L'arche parle du trône de Dieu. On va revenir à l'arche aussi dans le livre d'Esdras. Mais l'arche de Dieu était en exil, pris par les Philistins. La gloire était ôtée, Ichabod. La gloire est partie. Et puis Dieu est intervenu par sa grâce souveraine. Il a ramené l'arche et ensuite il a donné Samuel pour toute une réformation et David le roi. Et là, Dieu a envoyé un libérateur. Le troisième exil, dans les jours de Daniel, Nebuchadnezzar est venu pour prendre des captifs, des otages. Il les a transportés en Babylone, la captivité babylonienne. Pourquoi? On va voir ça tantôt. Je vais juste mentionner ces quatre exils dans l'histoire d'Israël. Puis le libérateur est venu, Cyrus ici, dans un sens, et aussi ce reste fidèle qui a répondu à cet appel de Dieu pour rentrer à Jérusalem. Quatrième exil, à cause du rejet du Messie. Le peuple d'Israël est en dispersion. Même encore aujourd'hui, les 10 tribus sont encore dispersées à cause de l'idolâtrie, mais les 2 tribus sont encore dispersées à cause du rejet du Messie. Mais on voit déjà que Dieu a ramené une partie des Juifs en Israël. Mais c'est encore la dispersion présente. Et on voit que Dieu va avoir aussi un témoignage après l'enlèvement de l'Église et un libérateur aussi pour ramener le peuple et accomplir les prophéties. Donc c'est un sujet en soi, mais on va voir que le livre d'Esdras est en rapport avec ce troisième exil, cette troisième captivité dans les jours de Daniel, ou après les jours de Daniel, où Dieu a restauré un reste. Okay? C'est ça, juste pour placer un peu le contexte, voir le contexte où on est dans ces quatre exils. Maintenant, j'aimerais suggérer le thème général de ce livre-là. C'est la maison de Dieu. Et j'aimerais suggérer que le sujet, la maison de Dieu, prend beaucoup de place dans la Bible. Donc je ne veux pas dire que l'évangile n'est pas important. Si vous faites ces conclusions-là, ce n'est pas ce que j'ai dit. L'évangile est très important parce que Dieu va recruter par l'évangile des gens qui doivent être sauvés pour les introduire à son église, dans son église. Tous les croyants appartiennent à l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, dans le Nouveau Testament, est appelée la maison de Dieu. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire là, maintenant, la maison de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui est bien connue. Plusieurs passages, 1 Corinthiens, 1 Timothée, Éphésiens, parlent de la maison de Dieu. On va trouver des illustrations de cette vérité-là dans l'Ancien Testament. On trouve là la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. On va trouver des vases qui appartiennent à la maison de Dieu. Et à cause de l'infidélité du peuple, la maison de Dieu était en ruine, détruite par le roi de Babylone. Ok, mais juste pour vous donner une idée, comment ce sujet est important, ça commence dans le livre de Genèse et ça continue jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est donc un thème très important, un sujet très important. Juste pour toucher, Bethel veut dire maison de Dieu. On trouve ça déjà dans Genèse 12, dans l'histoire d'Abraham et c'est très intéressant, Abraham était sorti de d'où? Sorti d'Ur des Chaldéens, sorti de Babel, parce que Babel était très proche de... C'était dans la même contrée. Dans Josué 24, nous lisons que Abraham et ses pères, ses ancêtres étaient des idolâtres, et Dieu a appelé Abraham pour sortir de là, sortir de l'idolâtrie. Vous voyez le parallèle avec Esdras? Ils sont sortis de Babylone, par la grâce de Dieu. On va voir les détails tantôt. Ensuite, dans le livre de Genèse, on voit que Jacob a dû apprendre beaucoup de leçons en rapport avec la maison de Dieu, dans Genèse 28 et 35. Et dans chapitre 35, il a réalisé que Dieu est le Dieu de la maison de Dieu. Donc, je répète, aujourd'hui, tous les croyants, ensemble, ne forment qu'une seule maison où Dieu habite. L'Esprit de Dieu habite dans chaque croyant individuellement. Si vous êtes un croyant, l'Esprit de Dieu habite en vous. Votre corps est une maison, un temple de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu habite aussi dans chaque groupe de croyants. Ça veut dire tous les croyants de Shawinigan ne forment qu'une seule église. Et dans cette église, malgré toutes les divisions, c'est une maison où Dieu habite. Et c'est donc important pour nous reconnaître les pensées de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule maison ici à Shawinigan. On aimerait exprimer cette vérité-là. C'est pour ça qu'on a besoin de ces illustrations. Et il y a aussi ce contexte global que tous les croyants, sur le plan mondial, ne forment qu'une seule maison où l'Esprit de Dieu habite aussi. Donc la maison de Dieu, c'est vraiment un sujet très important. Et nous voyons dans l'Ancien Testament beaucoup d'illustrations. J'ai marqué ici le tabernacle dans le désert. C'était la maison de Dieu, l'habitation de Dieu dans le désert. Le désert, c'est pas pour habiter, c'est on traverse le désert. Et ainsi, dans le jour d'Aaron et Moïse et Josué, ils ont traversé le désert avec l'arche, avec le tabernacle. L'arche, le trône de Dieu, le tabernacle, la maison de Dieu. C'est toujours en voyage. Ainsi, dans un sens, les croyants aussi aujourd'hui sont en route, sont en voyage. Il n'y a pas de permanence encore. On est dans le désert, mais pour être un témoignage. Puis j'ai marqué, vous pouvez relire ça parce qu'on n'a pas le temps pour le faire ce soir, mais Exode 15, lorsque le peuple d'Israël était délivré du Pharaon, de la puissance du Pharaon, il parle déjà d'une maison. Exode 15, verset 4, « Je le glorifierai » ou « Je construirai, bâtirai une maison, une tente, une habitation. » Et dans chapitre 25 à 40, on voit comment ce plan a été réalisé. D'un côté, c'était le plan de Dieu, mais d'un autre côté, c'était le désir du peuple de préparer un lieu d'habitation pour Dieu. Est-ce que c'est notre désir à répondre aux pensées de Dieu? Dieu veut habiter avec les croyants. Est-ce que nous voulons préparer une place pour lui? Ça, c'est l'exercice d'Exode. Et c'est un exercice collectif. Ce n'est pas seulement individuel, comme avec les patriarches, mais c'est maintenant un exercice collectif pour tout le peuple, pour préparer une place pour l'Éternel. Et j'aimerais lire un passage dans Exode 29, qui est un passage clé pour nous faire comprendre l'importance de ces pensées-là. Dans Exode 29, verset 38, nous lisons de l'autel. Dans le verset 39 et 40, le sacrifice, 41 aussi, le matin et le soir, un sacrifice par feu à l'Éternel. Verset 42, ce sera l'holocauste continuel en vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire, et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Donc d'abord, la délivrance, ça c'est la condition numéro un. Il faut avoir un peuple délivré, délivré d'Égypte. Lorsqu'on est sous l'esclavage du Pharaon, on ne peut pas faire une habitation pour Dieu. C'est impossible. On appartient au Pharaon. Si on est délivré de cette puissance de Pharaon, la puissance du péché, la puissance du monde, la puissance de Satan, on peut être libre pour préparer une place d'habitation pour l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui veut habiter au milieu de son peuple, même s'ils sont dans le désert. Et puis, on voit aussi que ce lieu est indiqué par Dieu. Et ce lieu devient un lieu de rencontre. Dieu veut habiter avec son peuple, mais il veut être aussi le centre de la rencontre, de leur rencontre. Et c'est indiqué par Dieu, comme on le voit ici, à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation veut dire la tente de la rencontre, où on se rencontre. Le peuple se rencontre avec Dieu. Et c'est là aussi où ils peuvent amener leur sacrifice. Ça nous parle de l'adoration. On va voir ce sujet un peu plus tard dans Esdras. L'adoration, le service de Dieu est très important, mais c'est tout lié à cette pensée-là, que Dieu veut habiter avec son peuple, il veut rencontrer son peuple pour les bénir. On va revenir à cette pensée-là aussi. Dieu veut bénir son peuple. On a vu l'autel, on va revenir dans Esdras 3, à l'autel, l'importance de l'autel. On voit déjà dans l'Ancien Testament que l'autel est appelé la table du Seigneur. Donc, ce sont beaucoup de détails que je mentionne maintenant, et j'espère que vous ne serez pas découragés à cause de l'abondance de points, mais ce que je mentionne maintenant, on va essayer de les connecter tous ces détails-là pour que vous voyez l'ensemble. Donc, l'habitation de Dieu, un témoignage dans le désert, comme j'ai marqué ici, lieu de rencontre indiqué par Dieu, ce n'est pas inventé par l'homme, mais indiqué par Dieu. Ensuite, pour bénir son peuple, l'autel, la table du Seigneur, on va revenir à ça, l'Holocauste, l'importance de l'Holocauste, on a lu ça, à cause de l'Holocauste, Dieu pouvait habiter avec son peuple et sanctifier les sacrificateurs. Et il pouvait y révéler ses pensées. Le peuple venait là pour adorer, pour amener leur sacrifice à l'entrée de la tente, et Dieu était là aussi pour parler avec Moïse et révéler ses pensées. On a les mêmes pensées aujourd'hui. Demain matin, Dieu voulant, si on reste ici, on aura la table du Seigneur, on aura les sacrifices de nos lèvres, de nos cœurs, pour amener ces sacrifices. Et puis c'est là aussi où Dieu parle, on a le ministère de la parole de Dieu. Dieu révèle ses pensées par le Seigneur Jésus qui est maintenant dans la gloire, par son esprit. On a déjà tous ces éléments-là ici, dans cette illustration. Maintenant, je fais un grand pas dans le pays. Quelle est la différence entre le tabernacle dans le désert et le temple dans le pays? Dans le pays, tout était en repos. Tout était établi d'une façon permanente. Et lorsqu'on parle du pays, nous pensons, pour nous les croyants, au propos de Dieu qui est inchangeable. Selon le propos de Dieu, il fallait que le peuple soit dans le pays. Selon le propos de Dieu, nous avons des bénédictions du pays. Ce qui était le pays littéral, géographique pour Israël, et pour nous, le ciel. Pour nous, le pays, c'est le ciel où Christ est maintenant assis à côté de Dieu. Puis là, il y a le repos. Le Seigneur Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Le pays est caractérisé par le repos. Et là, il y avait le temple. Et j'ai marqué un psaume important, le psaume 132. Et j'aimerais vraiment vous encourager à lire ce psaume-là. Et là, vous allez découvrir trois choses importantes. Je les mentionne simplement. D'abord, l'autorité du roi. Dieu avait préparé un roi. C'est David, son bien-aimé. Ensuite, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et David prépare une habitation. C'est de nouveau comme on a vu dans Exode, le peuple prépare une habitation. Mais dans le psaume 132, c'est un seul homme qui prépare une place pour l'Éternel. Puis là, Dieu va habiter, il va venir pour habiter là, à Jérusalem, selon ses pensées, pour quoi? Pour faire quoi? Pour bénir son peuple. Ces trois éléments sont là. L'autorité du roi, et là on pense, pour nous, l'autorité du Seigneur Jésus, le vrai roi, le vrai bien-aimé, l'habitation de Dieu avec son peuple, pour ensuite les bénir. Ces trois pensées de base sont là. Et puis, c'est là où on trouve aussi un nouvel élément, les chants. Et c'est là, dans la présence de Dieu, où nous pouvons chanter. C'est David qui a institué ce service des chants. Et dans Colossiens 3, Éphésiens 4 ou 5, on est appelé à chanter de cœur des cantiques spirituels, des hymnes, des cantiques et des psaumes spirituels. Ça, c'est donc des choses que David a instituées dans l'Ancien Testament sont des illustrations de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Mais un point important à comprendre, tout selon les pensées de Dieu. Tout était institué selon les pensées de Dieu. D'abord par Moïse dans le désert, dans Exode 40, il est mentionné 7 fois selon ce que Dieu avait commandé. Dans les jours de David, c'était exactement selon les pensées de Dieu. Tout était là, prêt. Et c'est pour ça que nous devons aussi appliquer les principes de Dieu avec soin, que ce soit exactement selon les pensées de Dieu, pas selon les pensées de l'homme. Mais vous voyez, c'est exactement là où le peuple a manqué. Il y a eu l'idolâtrie. Au lieu de servir le vrai Dieu, même dans le désert, Étienne le dit dans Acte 7, ils ont porté avec eux les idoles. Dans le pays, les 10 tribus ont introduit l'idolâtrie. Tout de suite, même à la fin de la vie de Salomon, c'est Salomon lui-même qui a introduit l'idolâtrie. Et ensuite, après la dispersion des 10 tribus, il y a les 2 tribus qui ont introduit l'idolâtrie, même en rapport avec le temple. Dans Ézéchiel 8, on voit que les sacrificateurs et les chefs du peuple étaient impliqués dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça que Dieu a dit, si vous voulez servir les idoles, moi je vais vous renvoyer à l'origine des idoles. Quelle est l'origine de l'idolâtrie? C'est Babylone. C'est pour ça la captivité babylonienne. Dieu a dit, vous voulez servir les dieux de Babel? Ok, je vais vous transporter là. C'est aussi simple que ça. C'est ça que Dieu a fait. Pour les discipliner, pour les châtier. Et pas seulement pour ça, pour les purifier. Et c'est pour ça que j'ai mentionné maintenant ce sujet-là, cette pensée, la maison de Dieu est réalisée ensuite par un petit reste. C'est ça qu'on trouve dans Esdras, un petit reste. Après la captivité, et j'aimerais vous suggérer aussi de lire les psaumes 137 à 139, parce que dans le psaume 137, on voit qu'ils sont en Babylone, dans la captivité, ils ne peuvent pas même chanter les cantiques de l'Éternel. Ils sont incapables, ils disent, on ne peut pas. Comment servir Dieu dans le lieu de l'idolâtrie? Ils ont appris une leçon. Ils ont introduit les idoles là où Dieu habitait, à Jérusalem. Maintenant, Dieu les a transportés en Babel. Et là, ils ont appris leur leçon. Ils disent, on ne peut pas chanter les cantiques de l'Éternel ici à Babel, dans le centre de l'idolâtrie. Et dans le psaume 138, on voit qu'ils sont de retour à Jérusalem. Et dans le psaume 139, on voit la condition qui est nécessaire pour rester à Jérusalem, dans le jugement de soi-même. Donc c'est un châtiment de la part de Dieu à cause de l'idolâtrie. Et maintenant, l'application pour nous, parce que vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec Babylone? Moi, j'ai rien à faire avec Babylone. Le nom Babel veut dire porte vers Dieu. C'était déjà réalisé par Nimrod et son épouse dans Genèse 10 et 11. Là, on voit comment l'idolâtrie a été introduite dans la vie des hommes. Et c'était vraiment une invention de Satan. Et à cause de ça, Dieu les a dispersés. On le voit dans Genèse 11. Mais ça, c'est l'origine de l'idolâtrie. Et je ne peux pas donner les détails. Mais plus tard, on voit aussi que dans l'histoire d'Israël, l'influence de Babel ou de Babylone a été très grande. Même lorsqu'ils sont dans le pays promis, dans Josué 7, déjà là, on voit un vêtement babylonien qui était la cause de la chute d'Achan. Et pour nous, on voit dans nos jours, dans Apocalypse 17 et 18, on voit le grand Babylone. La prostituée, la grande prostituée, c'est là un système d'idolâtrie. Et c'est là où nous, dans Apocalypse 17, 18, nous avons une image de l'ensemble de la chrétienté, de la profession chrétienne, après l'enlèvement de l'Église, on voit là l'ensemble de la profession chrétienne comme une grande prostituée. Et là, on voit l'idolâtrie. L'idolâtrie, la coupe qu'elle a avec les choses abominables, ça parle de l'idolâtrie. Et puis, j'aimerais suggérer que cet aspect-là, on voit dans nos jours, déjà dans le romanisme, dans le système catholique romain. Je ne parle pas contre les croyants qui sont là. On parle contre un système entre les jours d'Esdras, où les gens étaient délivrés de la captivité, et nos jours, où il y a aussi la possibilité d'être délivré de cette captivité. Aussi longtemps qu'on est sous le contrôle d'un tel système, on ne peut pas vraiment adorer Dieu en liberté, selon ses pensées. C'est pour ça que dans Apocalypse 18, on lit « sors du milieu de ce système-là ». Et on voit cet appel souvent dans la Bible de sortir d'un système d'idolâtrie. Donc vous pouvez penser là-dessus. Et deuxièmement, Babel nous parle aussi d'un système de confusion, parce que c'est là où Dieu a confondu les langues. Et ainsi, on voit là aussi une image de l'ensemble de la profession chrétienne qui est en confusion. Aussi, les dénominations, tout cela, ce n'est pas vraiment la pensée de Dieu, c'est la confusion. Et Dieu veut donc délivrer son peuple de cette influence-là, d'une influence idolâtre. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on voit dans l'histoire de l'Église que dès le début, l'idolâtrie a été introduite, comme dans l'histoire d'Israël. Et aussi la confusion, mais surtout après la Réformation, on voit comment les églises se sont divisées, beaucoup de confusion. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut nous délivrer de cela pour avoir ce lieu, pour être à ce lieu où il habite. Donc, à la fin, j'ai mentionné illustration. Le retour de l'exil, c'est une illustration de la Réformation d'un côté, ce qu'on voit dans Sardes, dans Apocalypse 3, mais aussi, surtout, du réveil, parce que c'est seulement dans le réveil que les croyants ont compris la vérité de la maison de Dieu. Dans les jours de la Réformation, l'emphase était mise sur la justification par la foi, tandis que dans les jours du réveil, on a mieux compris l'unité de tous les chrétiens, l'unité de la maison de Dieu. Après la Réformation, ils se sont divisés dans toutes sortes de groupes, une église nationale ici, en Angleterre, en Hollande, en France. C'est une division, c'est une confusion. Tandis que dans les jours du réveil, les croyants ont vu que l'unité dépasse les frontières faites par l'homme. Et on va voir aussi comment Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce souveraine, a protégé les croyants. Comme dans les jours d'Esdras, il a protégé les croyants qui ont fait le même pas dans les jours du réveil. Donc là, on voit le contexte de l'assemblée du Dieu vivant, comme on le voit dans Philadelphie, dans Apocalypse 3. Donc, je mentionne maintenant quelques points, et puis on va revenir à ces points-là. C'est juste pour vous dire ça, que contexte général, et aussi la deuxième feuille, en phase, sur quelques points, on va revenir à ces points-là. Mais je les mentionne brièvement maintenant. D'abord, l'arrière-plan de l'exil. On voit trois transportations. Daniel et ses amis étaient la première transportation. Ensuite, on voit que d'autres vases du temple étaient pris avec la transportation de Daniel. Il y avait aussi des vases pris du temple. La deuxième transportation, il y avait plus de personnes, des notables qui étaient pris de Jérusalem et de Judée. Et la troisième transportation, encore d'autres, au moins trois transportations. Et on trouve aussi dans Esdras et Néhémie trois exodes. Le chapitre qu'on a lu ce soir, c'est la première exode. À peu près 81 après, sous Esdras, il y avait un deuxième exode, une petite groupe. Et ensuite, 15 ans après à peu près, encore une exode sous Néhémie. C'est important voir les liens avec les autres livres. Deux chroniques, par exemple. Le livre des chroniques nous parle aussi d'un résidu qui voulait servir Dieu. On va retrouver cette pensée-là d'un reste dans Esdras et Néhémie. Donc, il y a des liens avec deux chroniques. Il y a aussi des liens avec deux chroniques à cause du sujet, parce que dans chronique, on voit la maison de Dieu. Les deux livres des chroniques ont été écrits pour nous aider à réaliser les pensées de Dieu concernant la maison de Dieu, même dans un temps de ruine, de déclin. Le livre d'Esdras se lit aussi au livre de Daniel, parce que dans Daniel, on voit pourquoi Dieu avait transféré l'autorité entre les mains du roi de Babel. Pourquoi il avait ôté donc l'autorité de Juda, des rois de Juda, et transféré l'autorité entre les mains du roi de Babel? C'est Dieu qui l'a fait. Et Daniel explique ça. Dans Néhémie, on voit la continuation du récit qu'on a dans Esdras. Dans Esdras, on va voir la restauration initiale. Et puis la prochaine fois, on espère parler de chapitre 3, comment l'autel était rétabli. Et on va parler de ce que ça veut dire, l'autel rétabli. Ensuite, on va voir qu'ils ont mis le fondement du temple. On va parler de l'importance de ça. Ensuite, on va voir qu'ils vont reconstruire le temple. On va parler de ça. Mais dans Néhémie, on voit qu'ils vont encore un pas plus loin. Ils vont reconstruire la ville. Aussi dans les jours d'Esdras, ils ont reconstruit la ville. Mais dans les jours de Néhémie, ils ont accompli cette œuvre-là et aussi bâti la muraille. C'est un nouvel élément qui s'ajoute. Donc ça va tout ensemble. Et puis ensemble avec ces trois livres, on a Agé, Zacharie et Malachie. Ce sont les prophètes de Dieu. On va voir dans Esdras 5 que Agé et Zacharie ont parlé pour encourager le peuple à construire le temple. Mais dans Malachie, on voit que le prophète blâme le peuple plus tard, après les jours de Néhémie, ou même dans les jours de Néhémie, pour leur état moral qui n'était pas selon les pensées de Dieu. C'est juste pour mentionner qu'il y a donc des liens entre tous ces livres-là et qu'on devrait les considérer dans son ensemble pour comprendre le sens de chaque livre, et surtout maintenant ce livre qu'on étudie, Esdras. Un autre point que j'aimerais mentionner, et je l'ai déjà mentionné brièvement, mais c'est la question de la discipline. Le peuple était désobéissant. Et nous savons ce que ça veut dire. Si quelqu'un est désobéissant, il y aura la discipline. C'est dans nos foyers, comme ça, la discipline à cause de la désobéissance. C'est dans le contexte des croyants. C'était aussi dans ce temps-là où Dieu a discipliné son peuple. Il s'est dit, Dieu a dit pour ainsi dire, vous êtes des idolâtres maintenant, je vais vous transporter à l'origine de l'idolâtrie, à Babel. C'était un jugement de Dieu. Et dans Jérémie 24 et 25, nous voyons, d'abord dans Jérémie 24, nous voyons deux corbeilles. Peut-être vous connaissez cette histoire-là. Une corbeille avec des figues très bonnes et une corbeille avec des figues très mauvaises. Puis là, Dieu explique ce que ça veut dire. La corbeille avec les bonnes figues étaient les croyants ou les gens qui habitaient à Jérusalem et en Juda qui voulaient se soumettre à la discipline de Dieu, qui ont accepté les voies de Dieu, que Dieu voulait les transporter, que Dieu voulait les mettre entre les mains du roi de Babel. C'était une humiliation que l'autorité du roi de David, du roi de Juda était prise, que le temple serait dérobé, les vases précieux du temple étaient ôtés par Nabuchodonosor, et ensuite le temple était détruit, la troisième transportation. C'était humiliant, mais ce reste, comme on le voit dans Jérémie, ont accepté ce jugement de Dieu. Ils savaient que c'était pour leur bien, c'était à cause de leur désobéissance, c'était pour leur bien. Une leçon morale pour nous, si on accepte le jugement de Dieu, ça va nous aider. Si nous acceptons la discipline, ça va nous aider. Mais il y avait aussi la corbeille avec les figues méchantes, mauvaises. C'était les gens qui se rebellaient contre les voies de Dieu. Ils ne voulaient pas se soumettre au joug du roi de Babel. Je ne veux pas dire que c'est le plan de Dieu d'avoir son peuple sous le joug du roi de Babel tout le temps. Parce que exactement dans ce livre Esdras, on va voir que c'était seulement pour un temps. Dieu voulait les délivrer de ce joug-là après qu'il ait appris leur leçon. Donc ça nous parle de l'importance de la discipline. D'autres choses à considérer. Dans Esdras, nous ne voyons pas l'arche comme dans les jours de David, de Salomon. On voit comment l'arche a une place centrale. Mais pourquoi on ne voit pas l'arche dans Esdras et dans Néhémie? Est-ce que vous le savez? L'arche nous parle du trône de Dieu. Il y avait, le trône de Dieu n'était plus sur la terre. Dieu a transféré l'autorité donnée au roi de Babel et Dieu était le Dieu du ciel, le Dieu des cieux. Même dans Daniel 2 et d'autres passages aussi, on a lu ça, je pense, ce soir. Le Dieu des cieux, Esdras 1, verset 2. Donc Dieu n'avait plus son trône sur la terre. Dans 1 Chronique 29, nous lisons que Salomon était assis sur le trône de l'Éternel à Jérusalem. Il était le représentant visible de Dieu, de l'autorité de Dieu. À cause de la désobéissance du peuple, Dieu a dit, j'ôte cette autorité-là. Je donne ça entre les mains des nations. Et c'est encore aujourd'hui le temps des nations. Et Dieu est le Dieu des cieux. Donc ça veut dire, l'arche n'est plus là, le trône de Dieu n'est plus là. Et c'est le mépris pour le peuple de Dieu, comme on va voir dans le livre Esdras, et si vous voulez étudier Néhémie aussi. Sans roi d'Israël ou de Juda, ils étaient placés sous les rois des empires mondiaux. Babylone, les rois des Mèdes et des Perses, ensuite Alexandre le Grand et ses descendants, de ses successeurs, ensuite l'Empire romain. C'est pour ça que j'ai mentionné l'importance de Daniel. Il faut étudier le livre de Daniel pour comprendre tout cela. Donc le trône de Dieu n'était plus là. Et puis, une autre chose à mentionner, Dieu parle ici seulement d'un reste des deux tribus. C'est seulement un petit reste des deux tribus qu'on trouve ici. Ce n'est pas vraiment tout le peuple qui est là. Mais on va voir dans le chapitre 6 qu'il pense quand même à tout le peuple de Dieu. Et on va voir que c'est important pour nous aussi. Si nous sommes seulement un petit reste qui veut suivre les pensées de Dieu, il faut quand même, dans nos pensées, dans nos cœurs, embrasser tout le peuple de Dieu. C'est une des leçons qu'on va voir dans le livre d'Esdras. Et aussi une faiblesse apparente. Dans ces jours-là, il y avait beaucoup de faiblesse. C'était un jour de petites choses, peu de force, et c'est pour nous la même chose. Maintenant, si on tourne la page, juste rapidement, mentionner ces points-là, on va trouver, et déjà dans Esdras 1, c'est très évident, une œuvre de l'Esprit de Dieu. Il y a là une œuvre de Dieu. On a vu la désobéissance de l'homme. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. L'homme gâte tout. Vous le savez? L'homme gâte tout. Adam a gâté le plan de Dieu. Je peux donner toute une liste d'exemples où on voit que l'homme a gâté ce que Dieu lui avait confié. Mais là, il y a encore l'œuvre de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses plans. Et ainsi aussi l'importance de la parole de Dieu. Il fait référence à la parole de l'Éternel. La parole de Dieu sera accomplie. Deuxième point, la providence de Dieu. Dieu est en contrôle. Son trône n'est plus sur la terre d'une façon visible, mais Dieu est dans le ciel. Il est en contrôle. C'est ça qu'on trouve aussi dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de confusion, beaucoup de corruption, mais Dieu est quand même en contrôle. Troisième emphase qu'on va voir, la séparation du mal. Il fallait que ce petit reste se sépare de l'idolâtrie, qu'il soit vraiment libre pour servir Dieu. On va revenir à ça aussi plus tard. Le nom et la maison de l'Éternel, c'est une pensée très importante. On a déjà mentionné l'importance de la maison de l'Éternel, mais ici, dans le premier chapitre qu'on a lu, on voit souvent une maison ou la maison de Dieu ou de l'Éternel à Jérusalem. Et Jérusalem, le centre divin pour le service de Dieu, je l'ai marqué un peu plus loin. Jérusalem est mentionné 7 fois dans le premier chapitre. Et Jérusalem était pour Israël le centre divin pour le service de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 12. J'ai mentionné le psaume 132. Mais aussi Deutéronome 12 serait très utile à étudier en rapport avec cela. Et là, on voit que Jérusalem est le centre selon les pensées de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas un centre comme ça. Jérusalem terrestre n'est pas notre centre divin. Notre centre divin, c'est en rapport avec Christ dans le ciel, mais aussi sur la terre. Christ a dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours. » Et dans Matthieu 18, nous avons que ceux qui par le Seigneur, où il habite, il est au milieu d'eux, où il est le centre, où il donne aussi son autorité, le nom est associé. Et c'est pour ça que j'ai dit, ces illustrations de Esdras 1 et les chapitres suivants sont tellement importants pour nous, parce qu'on peut transférer ces choses tout de suite dans le Nouveau Testament. Ce sont des illustrations de nos jours. La pensée de la maison, la pensée du centre, les sacrifices, comme on va voir, la table du Seigneur, sont toutes des illustrations qu'on a présentement dans nos jours. Mais pas d'une façon concrète, physique, comme Jérusalem géographique, ou un hôtel concret comme ça, Pour nous, ce sont des choses spirituelles. Ce qui était là, littéralement, d'une façon concrète, à toucher, sont pour nous des vérités réelles, spirituelles. Le centre divin, le nom de Dieu, l'autel, c'est pas quelque chose de visible, une table ou quelque chose comme ça, mais l'autel de Dieu, c'est la table du Seigneur. On va revenir à ça, ce sont des choses très importantes. Mais on voit aussi, entre deux, entre ces deux points, l'humilité et la repentance. Pour réaliser les choses, les pensées de Dieu, il faut s'humilier, parce qu'on a manqué. Nous avons manqué. L'Église a manqué. Donc, il faut prendre une place d'humilité, de repentance. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de prières dans ces livres d'Esdras et Néhémie, et même dans Daniel 9. Et l'unité du peuple, on va voir que la pensée de l'unité du peuple est gardée. Et ça nous aide aussi contre l'indépendance et le sectarisme. C'est un autre sujet très important qui va ressortir dans ce livre-là. L'unité du peuple, malgré le déclin. Et c'est dur à réaliser ça. Si vous voyez, la plupart du peuple d'Israël, les multitudes sont restées à Babel. Seulement un petit reste à écouter la voix de Dieu et aller à Jérusalem. Et quand même, ils ont gardé dans leur cœur les principes de Dieu concernant l'unité du peuple. Donc, quelques principes divins qu'on va trouver. La responsabilité de l'homme, je l'ai manqué. L'homme manque et gâte tout. C'est la faillite. Mais là, on voit la grâce souveraine de Dieu. À cause de leur manque, Israël était, ou les deux tribus étaient en Babylone maintenant. La grâce de Dieu intervient pour les ramener à Jérusalem. Et le troisième point que j'ai mentionné, le propos immuable de Dieu. Les pensées de Dieu ne changent pas. La faillite de l'homme ne peut pas changer la vérité de Dieu. C'est une autre chose qu'on trouve ici. Et selon le plan de Dieu, ils vont établir l'autel, le temple ensuite, et les murailles après, selon le propos de Dieu. Et c'est pour nous donc très important, dans nos jours, à connaître le propos de Dieu, comme dans Éphésiens, Colossiens, d'autres passages dans la Bible. L'habitation de Dieu, je l'ai mentionné, en rapport avec son règne, son autorité, et là, il peut bénir. Aussi, le principe d'un résidu. Seulement un résidu va réaliser les plans de Dieu. Il y avait des centaines de milliers de Juifs en Babylone. Il y avait seulement 42, on va le voir la prochaine fois, Dieu voulant, chapitre 2. Seulement 42 000, un peu plus, sont rentrés à Jérusalem. Donc, seulement un résidu. Mais pour Dieu, c'était son vrai peuple. Dieu s'est identifié avec ce petit reste à Jérusalem. Il a dit, c'est mon peuple. Et puis, le sixième point, un exercice profond. Ça prend un exercice profond. Ce n'est pas facile sortir de la prospérité. Il faut réaliser que là, à Babel, il y avait la deuxième, la troisième génération. Ils étaient à l'aise. Là. Ils avaient des entreprises. Les choses allaient bien. C'était très bien là. Donc, pour abandonner tout ça, pour aller à Jérusalem, ça prenait un grand exercice de cœur. Ça prenait la foi. Ça prenait des prières. Et pour nos jours, c'est la même chose. La plupart des chrétiens sont bien confortables où ils sont, dans la division, dans la corruption même, dans l'idolâtrie. Ils sont bien confortables. Même des vrais croyants. Il faut payer un prix pour sortir de là. Sortir de Babylone. C'est ça qu'on voit ici, ça prend un exercice profond. C'est pas parce que mon père a quitté l'église, ou mes parents, ou vos parents. Non, ça prend vraiment un exercice de cœur, personnellement. La foi et la prière. Et aussi, l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu reste toujours la même. La parole de Dieu ne change pas. Et vous voyez, c'est tellement consolant. Dans Actes 20, Paul dit, il y aura de la confusion, il y aura de l'idolâtrie, il y aura de faux hommes qui vont conduire le peuple de Dieu dans la mauvaise direction. Mais il dit, je vous recommande à la parole de Dieu, à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole de Dieu et sa grâce nous suffisent. C'était le cas dans les jours d'Esdras, c'est aussi le cas dans nos jours. Et on va voir aussi une leçon importante, la séparation de l'idolâtrie et du mélange. Ça, c'est une leçon qu'on va élaborer un peu la prochaine fois, peut-être, et puis les fois à venir. Donc, on a juste quelques minutes encore pour parcourir un peu ce chapitre. Donc j'aimerais suggérer que vous gardiez ces points et que vous étudiez ces points-là pour vous-même. Et puis, si vous avez des questions ce soir ou même la prochaine fois, vous pouvez prendre ces feuilles, puis mettre des notes, puis sentez-vous libre d'avoir des questions. Donc, ce chapitre 1, j'ai trois points. La proclamation de Cyrus, versets 1 à 4. Ensuite, la réponse des chefs de Juda, versets 5 à 6. Et ensuite, les vases de la maison ramenés à Jérusalem, versets 7 à 11. Donc, comme vous le voyez, ce sont des choses littérales. C'est donc le sens littéral. Ces choses ont aussi une signification prophétique. Dans le futur, Dieu va avoir un temple sur la terre, le temple d'Ézéchiel. Ézéchiel 40 à 48. Mais nous parlons maintenant du sens allégorique et aussi l'application spirituelle pour nous. Donc on voit dans verset 1 à 4 cette proclamation, cet édit de Cyrus. C'est très remarquable que 200 avant que ça arrive, le prophète Ésaïe, 200 ans avant ça, le prophète Ésaïe avait déjà parlé de Cyrus. Sept fois, vous pouvez voir dans Ésaïe 41 jusqu'à 48, cette référence à Cyrus. Pas toujours le nom, mais quelquefois il est mentionné « mon serviteur, Cyrus ». Dieu dit « mon bien-aimé même, mon berger ». Donc, Cyrus était un instrument dans les mains de Dieu. Et dans ce sens-là, Cyrus est même une image du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus va régner comme le grand empereur de la terre. Son nom veut dire « soleil ». Là aussi, un parallèle avec le Seigneur Jésus. Donc, le roi de Perse, il va maintenant faire ce que Dieu avait dit. C'est remarquable. Vous voyez, ces empereurs comme le roi de Babel et aussi les rois de Perse pensaient qu'il était roi et maître de tout. Mais ici, nous voyons qu'il reconnaît quand même l'autorité de Dieu. Et puis, l'auteur, Esdras, ici, dit « afin que fût accomplie la parole de Dieu, de l'Éternel ». Dans Jérémie 25, vous pouvez lire, et aussi dans Jérémie 29, comment Dieu avait prophétisé que les jours de Babylone seraient terminés après 70 ans et que Dieu transférerait l'autorité entre les mains d'un autre roi, le roi de Médie, dans Jérémie 25, verset 25. Et aussi, verset 11, il mentionne « Ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. » Ok? Donc, Jérémie 25 est très important. Verset 12 aussi, « Il arrivera quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité. » Donc, Dieu allait maintenant châtier les rois de Babylone à cause de leur iniquité, comme on voit dans Daniel 5, leur iniquité. Et Dieu est intervenu même dans Daniel 5. Il a permis que le général de Cyrus occupe la ville. Et aussi dans Jérémie 29, il y a une référence, verset 11, « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal. » Il parle ici d'une bonne parole, verset 10, « Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole. » pour vous faire revenir en ce lieu. Et j'aimerais souligner aussi le verset 13. Vous me trouverez, car vous me recherchez de tout votre cœur. Donc, c'était important dans ce temps-là. Ce sera important dans les jours à venir pour le reste d'Israël, qu'ils reviennent de tout cœur. Et c'était aussi dans les jours d'Esdras, parce que la multitude ne cherchait pas vraiment de tout cœur. Et ils n'étaient pas vraiment intéressés connaître la bonne parole de Dieu. Seulement un petit reste, comme on voit dans Esdras 1 et 2, avait de l'intérêt. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour connaître la parole de Dieu? Est-ce que vous cherchez, est-ce que moi je cherche de tout mon cœur connaître les pensées de Dieu? C'est ça la condition, la repentance aussi. Mais ici, donc, le côté de Dieu, la parole de Dieu, Dieu avait prédit ça, Dieu va accomplir sa parole. Et on va encore un beau point là, dans le verset 1, au milieu. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ça nous montre donc que Dieu est en contrôle. Apparemment, c'était ces rois-là, Cyrus et avant ça, le roi de Babel, qui étaient en contrôle. Non. En arrière de tout ça, c'est Dieu qui est en contrôle. Et dans Daniel 10, de nouveau je réfère à Daniel, dans Daniel 10, vous voyez que Dieu contrôle le monde invisible. Il y a Satan et ses démons qui travaillent. Dieu est là aussi en contrôle. Ce serait intéressant à étudier Daniel 10. Et Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Et un peu plus loin, on voit aussi que Dieu a réveillé certaines âmes pour aller. C'est l'œuvre de Dieu. Ici, la providence de Dieu pour conduire Cyrus. Et de nouveau, on voit la même chose aussi dans l'histoire de l'Église. Vous voyez, au Moyen Âge, personne en Europe pouvait faire quelque chose sans reconnaître l'autorité du pape. Dans ces jours-là, ce serait impossible de se réunir selon les pensées de Dieu, en toute liberté, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Au Moyen Âge, c'était impossible de le faire comme ça. Il fallait se soumettre à l'autorité de l'Église et seulement faire ça. Ça, c'était, dans ces jours-là, Babel. Et encore, dans nos jours, ça existe. Et puis, ici, on voit donc une intervention de Dieu, et c'est dans l'histoire de l'Église aussi comment Dieu est intervenu pour changer cela, pour que les gens aient la liberté de le servir, un peu comme on le voit dans les jours de la Réformation, mais aussi, surtout, dans les jours du réveil. Dieu a réveillé les esprits des rois dans ce temps-là. Vous voyez que même le roi d'Allemagne a voulu rompre le pain avec les frères à Berlin. En Hollande, la reine est venue pour rompre le pain, mais elle ne pouvait pas le faire parce que ces deux dames de campagne n'étaient pas des croyantes, donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir, mais elle voulait venir pour rompre le pain avec les frères. Donc là, on voit un changement de situation, c'est juste un exemple que je donne, où Dieu contrôle même les rois pour qu'ils soient en faveur avec ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Verset 2, il donne cette proclamation, et j'aimerais mentionner trois points maintenant dans versets 2 et 3. D'abord, c'est une charge que le roi Cyrus avait, et on va revenir à ça dans le chapitre 6. Là, on voit beaucoup plus de détails concernant la maison. Mais ici, il mentionne la charge qu'il a reçue de la part de l'Éternel, du Dieu des cieux, qui m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Donc, notons bien, une maison, on va revenir aux détails dans le chapitre 6, à Jérusalem, le lieu, le centre divin, selon les pensées de Dieu, psaume 132, Deutéronome 12, c'est là où il avait choisi à mettre son nom, et pour nous c'est donc Matthieu 18, c'est là où le Seigneur met son nom. Étant Judas, Judas veut dire louer, la louange de l'Éternel, donc ça va tout ensemble. Qui d'entre vous, ça c'est le deuxième point, il donne maintenant la permission. Donc d'abord, la charge qu'il avait de la part de Dieu. Deuxièmement, dans son édit, il mentionne la permission que tous d'entre les Juifs qui voulaient aller, pouvaient aller. Donc, en autre mot, la porte était ouverte pour tous les Juifs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la porte est ouverte pour tous les croyants à se réunir selon les pensées de Dieu. Dans sa maison, où il est le centre, où il est le chef, c'est ouvert pour tous. Mais est-ce que tous viennent? Est-ce que tous répondent à cet appel? Qui d'entre vous, quel qu'il soit, ce n'est pas nécessaire d'être une personne honorable ou érudite. Tous les croyants peuvent venir. Tous les membres de son peuple. Ici, dans ces jours-là, c'était littéralement les Juifs. Aujourd'hui, sont les membres du peuple de Dieu. Mais c'est la même pensée, le peuple de Dieu. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Comme Abraham est monté de Babel pour habiter dans le peuple, dans le pays promis. Troisième point, verset 4, celui qui est de reste, c'est une invitation pour donner. Donc on voit que même là, le roi a réalisé qu'ils n'allaient pas tous, mais que ceux qui restent en Babylone puissent supporter cette œuvre-là. Ça, c'est le verset 4. Mais j'aimerais encore souligner, verset 3 à la fin, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu à Jérusalem. Donc, il reconnaît ici le vrai Dieu. Dans ces temps-là, les dieux étaient reconnus en rapport avec les contrées où ils avaient le contrôle, mais Cyrus reconnaît le vrai Dieu à Jérusalem. Et souvent, on voit cette expression-là, la maison à Jérusalem ou Dieu à Jérusalem. Donc, le verset 4, l'invitation pour d'autres qui n'allaient pas, pour quand même supporter cette œuvre-là. Verset 5, on voit la réponse, les chefs se levèrent. Les chefs nous parlent de la responsabilité, l'élément responsable. Eux prennent l'initiative et d'autres vont suivre, de Judas et de Benjamin. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a d'autres croyants qui ont pris l'initiative le siècle passé et nous suivons dans leur sentier, dans le même sentier. Mais il faut quand même avoir l'exercice, comme nous avons vu. Il faut répondre.